voix nue. Cette semaine, Serge Toubiana rencontre Margaret Mengoz. Ce soir, qui êtes-vous, Margaret Mengoz ?
Bonsoir, Margaret Mengoz. Vous êtes une productrice chevronnée, dont la filmographie est généreuse et éloquente. En 1975, vous avez rejoint les Films du Losange, la société de production créée en 1962 par Éric Rohmer et Barbet Schroeder. Outre les films de ces deux cinéastes, vous avez produit ceux de Jean-Claude Brissot, André Vaïda, Roger Planchon, Romain Goupil, entre autres, sans oublier Michael Haneke, depuis Le Temps du Loup en 2003. Votre palmarès est prestigieux, deux palmes d'or à Cannes, Le Ruban Blanc en 2008 et Amour en 2011, et des prix dans les plus grands festivals du monde, Venise, Berlin. Dans l'univers mondial du cinéma, vous êtes une figure respectée, tant vous avez su maintenir vos exigences en matière d'indépendance et d'ambition artistique. Commençons cette série à voix nue en faisant connaissance avec une femme qui préfère demeurer dans l'ombre. Qui êtes-vous, Margaret Mengoz ?
Eh bien, je suis née à Budapest en 1941. Et nous étions des Zouaves du Danube. Ma famille a émigré au XVIIIe siècle sous Marie-Thérèse en Hongrie, qui cherchait à peupler par des paysans compétents la grande plaine de la Theiss, qui est une terre extrêmement riche. Et ma famille était dans le sud de l'Allemagne, où les terres sont pas riches, petites. Voilà, donc ils sont partis, parce qu'il fallait un couple de bœufs, des semences et un couple de chevaux. Donc on est parti, on s'est installé. Je suis née en fait à Soroksar, qui est aujourd'hui, enfin depuis la fin de la guerre, une banlieue de Budapest, mais qui était un village à l'époque. Ouais. Mon père était officier de l'armée hongroise, il était prisonnier des Russes dans les marais du Pripet, et le premier Russe que j'ai vu après la bataille de Budapest, c'était un soldat qui avait dans chaque main trois poulets vivants, des montres bracelets jusqu'au cou de chaque main, et qui agitait les poulets sous le nez de ma mère, parce que on a compris qu'il voulait qu'elle les cuisine pour eux. Et ma mère a obtenu qu'il nous laisse un poulet pour nous, pour la famille, les enfants qui restaient, et elle le cuisinait pour eux. Donc, les Russes ont proposé de réunir les familles, de faire revenir les prisonniers de guerre hongrois de Russie, réunir les familles qui étaient des Zouaves du Danube et de les réexpédier en Allemagne. Donc ma mère a prétendu qu'elle était de langue allemande, ce qui était vrai parce qu'ils continuaient à parler allemand entre eux, contrairement à ses sœurs, à ses frères, etc. Les Russes ont libéré mon père. On s'est réunis à la gare de Budapest. Ils nous ont mis dans des wagons expédiés vers le sud de l'Allemagne. À cette époque-là, on n'était pas tout seul parce qu'il y avait, disons, il y avait deux sortes. Il y avait des réfugiés et il y avait ceux qu'on appelait les expulsés de chez eux, ce qui était notre cas. On nous a débarqués sur une place du village, où il y avait quelques paysans qui avaient obligation de nous loger parce qu'on était 13 millions et demi de déplacés en Allemagne de l'Ouest. Il y avait les Sudètes, les Prusses orientales, les Allemands de la Volga, enfin toutes ces populations qui étaient depuis des siècles à l'Est de l'Allemagne, ils ont été tous expulsés par les Soviétiques. Et bon, ben les paysans choisissaient. On était quelques familles qui étions sur un camion, et on était la seule famille qui avait des enfants petits, de 4 et 5 ans.
Y avez-vous ?
Moi, ma sœur et mes parents.
C'est ça.
Et donc, ça n'intéressait pas beaucoup les paysans locaux de prendre une famille avec des petits enfants.
Il n'y avait pas de force de travail, de muscles.
Voilà, ils ne pouvaient pas travailler, ils ne pouvaient aider à rien. Ils étaient qu'une charge. Et donc le maire a obligé un célibataire du village de nous loger chez lui, ce qu'on a fait. Mon père a retrouvé assez vite du travail, parce qu'il s'était déclaré peintre en bâtiment, il n'était pas plus peintre en bâtiment qu'autre chose. Mais enfin, il fallait reconstruire, réparer toute l'Allemagne, en fait. Et donc, on a vécu là. Mes parents avaient une très haute idée. Ils nous avaient interdit de parler hongrois à la maison, parce qu'ils voulaient que nous ressemblions le plus vite possible aux gens de sur place, pour pas être ostracisés. Voilà. Et à cet âge-là, en 3 semaines, on parlait le swab avec les autres enfants du village. C'est un dialecte très fort de l'Allemagne du Sud-Ouest. Et ils avaient une idée qu'il fallait qu'on aille à l'école, qu'on fasse des études, parce que c'était dans ce magma qu'était l'Allemagne, la seule façon pour eux de se sortir et de trouver du travail et d'avoir une belle vie. Il fallait faire des études et avoir des diplômes. Moi, on s'est vite aperçu que ça me convenait pas très bien. Ma sœur a fait des lycées. Je me rappelle quand on est arrivé au lycée à Stuttgart, qui est la capitale de la Souabe, la première fois que le professeur nous a demandé quelque chose, la classe entière a éclaté de rire parce que nous étions incapables de parler le Hochdeutsch. On parlait le dialecte souabe. Et donc, ma sœur a fait des études. Moi, c'était pas mon truc. J'avais qu'une envie, c'est d'entreprendre quelque chose, de faire quelque chose. Et puis, je suis partie. J'ai jamais fait le bac. Je suis partie en Suisse pour apprendre le français parce que je pouvais pas venir en France. Et on était en 58 parce que les frontières étaient fermées à cause du retour de Gaulle et tout ça. La guerre d'Algérie. Donc, ils m'ont envoyé en Suisse. À la Chaux-de-Fonds. Donc, j'ai commencé par connaître Stendhal, parce qu'il a écrit, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Et j'étais fille au père dans un magasin de fleuristes, et j'ai fait une grande découverte économique là, parce que pendant l'année où j'étais fille au père, on n'a pas perdu une fleur. Parce que quand elles étaient un peu trop ouvertes, on faisait les décorations pour les mariages ou les couronnes pour les enterrements. Mais jamais on n'a jeté une seule fleur. Donc économiquement, c'est intéressant de voir ça quand même. Et voilà, donc je suis revenue ayant appris le français. Et il y avait une petite annonce, une société... qui fabriquait des films d'entreprise de l'industrie pharmaceutique allemande, cherchait une stagiaire, une débutante, une apprentie. Donc ils m'ont pris parce que ça les intéressait beaucoup que je parle bien le français. J'avais quand même appris un peu dans les années de lycée, jusqu'à 2 ans avant le bac, un peu d'anglais. Donc j'ai commencé à travailler pour eux. Et comme je parlais beaucoup, à l'époque, le festival de Berlin était au mois de juillet. Donc, comme je parlais plusieurs langues, les producteurs avaient un stand dans le hall, de ce qu'on appelle toujours l'huître enceinte. C'était l'ancien palais du festival de Berlin. Et là, il y a un Français qui est venu me demander si je savais où était la poste. Et puis, c'est devenu mon mari, ce Français-là. Il faisait des courts-métrages.
Et Robert Mengos.
Robert Mengos, oui. Et comme j'étais paumée un peu en France quand même, et je voulais pas rester seule à la maison.
Mais vous habitiez en France? Non.
Lui, il habitait en France, donc ouais. J'ai quitté mes parents en leur racontant une histoire, parce que la majorité était à 21 ans.
Vous n'aviez pas encore 21 ans?
Non. J'avais 18 ans. Et donc, je l'ai suivi en France en racontant à mes parents que j'avais trouvé un job en France. Bon, ils m'ont fait confiance et je suis partie. Et donc, il fallait que j'attende 21 ans pour l'épouser. Parce que jamais j'aurais eu le consentement. Mes parents, c'était trop compliqué pour eux. Et en attendant, il m'a amené sur ces tournages où j'étais censée de m'occuper de toute l'intendance. Où on dort, où on mange,
l'intendance, quoi.
Où est-ce qu'on peut poser la caméra, qu'est-ce qu'on a comme autorisation. Donc, On est allé au Brésil, on est allé au Japon, on est allé en Afrique, à Sime Saoud, qui était, c'était un endroit un peu compliqué à l'époque, mais c'est le pétrole algérien. Et on a fait un documentaire, et là j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, un hélicoptère qui apporte la nourriture pour les Français employés à Sime Saoud, et ça descendait du ciel, c'était jeté par l'hélicoptère. Il y avait des langoustes, il y avait des choses absolument extraordinaires que j'avais jamais vues de ma vie. Et donc, quand j'ai eu la majorité, on s'est mariés. Bon, mes parents ne pouvaient plus rien dire, donc comme ils étaient pragmatiques, ils ont pensé que ce n'était pas la peine de faire un scandale, puisque c'était fait que j'étais majeure.
Le scandale, ça aurait été parce qu'il était plus âgé que vous.
Il avait 15 ans de plus que moi. Il était français.
Il était français.
Un jeune frère de ma mère, Lajos, il était dans l'armée allemande et il était en France, il s'est battu en France et il est mort en France. Et donc c'était des Français étaient très très mal vus.
D'accord. Et Robert Mengoz, on peut le dire, était communiste ?
Oui, il était communiste, oui.
Parlez-nous de lui, parce qu'il est peu connu.
Ben, il a
fait de la résistance, je crois.
Il a fait de la résistance. Il a été intégré comme lieutenant dans l'armée à la fin de la guerre. Et il a fait toute la campagne vers l'Allemagne. La bataille qui menait jusqu'au Rhin, la traversée du Rhin et tout ça. Et il a eu une petite troupe. Je ne sais pas comment c'était le lieutenant. Il avait une douzaine de personnes, des tirailleurs sénégalais, qui lui donnait beaucoup de mal,
ouais.
Parce que ils étaient pas très regardantes avec les demoiselles allemandes, et un noir en Allemagne à cette époque-là, c'était pire que le diable, enfin c'était épouvantable.
On dirait un scénario de Fassbinder, non?
Oui, c'est l'Allemagne après-guerre, c'était voilà. Quelque chose de... Alors heureusement, un oncle, c'est-à-dire le mari de la sœur de mon père, il travaillait, quand on est arrivé en Allemagne, il y avait les PX. Les PX, c'était les magasins de l'armée américaine d'occupation. Nous, on était à la frontière de la zone d'occupation française et américaine. Et il s'est débrouillé. Il a rencontré un Hongrois dans l'armée américaine. Et puis, ils ont commencé à faire du trafic. Donc, on avait de la poudre des œufs, la poudre de lait, des bas nylons. On avait des choses qui étaient introuvables, même du café, qui était absolument introuvable, voilà. Et donc, on a assez bien vécu dans cette Allemagne pauvrissime, où il n'y avait rien à manger. Je crois que c'était la même chose en France à cette époque-là. Il y avait des tickets de rationnement.
Bien sûr.
Et donc, on avait, pour les vêtements, par exemple, on avait droit à un vêtement pour chaque enfant. Enfants par an. Et puis, il y a un peu de sucre, il y a un peu de farine, de margarine, ouais. Etc. Donc, il fallait assez vite se débrouiller en trouvant de la nourriture ailleurs. Mais on était pareil aux Allemands. Le premier papier que nous avons eu, c'était égal aux Allemands. Parce que nous étions d'origine allemande. Et donc, on avait vraiment des papiers. Mon père pouvait travailler légalement. Ça allait relativement bien. On nous avait donné deux pièces chez cet Allemand que le maire avait forcé de
nous
loger.
Oui.
Malheureusement, pour nous, les lycées étaient... c'était à Ehrenberg. C'était à 40 minutes de train. Mais... En hiver, la gare n'était pas dans le village, c'était deux villages plus loin, et on devait aller à pied attraper un train pour aller au lycée en Allemagne. Et avant nous, il y avait un train plus tôt qui était pour les ouvriers. Donc eux, ils avaient tracé au milieu de la route qui menait à ce village un étroit chemin avec les pas, Et donc, nous, c'était plus facile d'arriver à la gare. Enfin, on devait partir en pleine nuit quand même pour arriver à prendre le train. Quand nous arrivions, le lycée n'était pas ouvert, mais on nous avait laissé une pièce qui était chauffée, dans laquelle on pouvait attendre l'hiver. Et c'était donc un lycée de garçons. Ce qui fait que quand on est arrivé à Stuttgart, dans la capitale de l'Allemagne, au lycée, quand on a trouvé un appartement, enfin mes parents ont trouvé un appartement dans la ville pour ne plus avoir à faire ce trajet et tout ça. Bon, ils s'est fiché de nous, comme j'ai dit, parce qu'on ne savait pas parler vraiment le Hochdeutsch. Mais en mathématiques, par exemple, on était beaucoup plus avancés que ce lycée des jeunes filles. Parce qu'à cette époque-là, encore l'éducation des filles, les lycées des filles, il n'y avait pas de collège, c'était l'école primaire et tout de suite le lycée. C'était beaucoup moins considéré que les lycées pour les garçons, qui travaillaient beaucoup plus sérieusement. Enfin, je mélange un peu les époques, parce que c'est c'est les souvenirs. Et donc, je reviens à la France, puisque tout ce que je vous ai raconté. Et donc,
Qu'est-ce que c'était la France pour vous ? Ça représentait quoi ?
C'était incroyable. Le premier repas avec les Français dans la maison de mon mari, qui était un moulin sur l'Essonne, avec ses amis. Il me présentait à ses amis. Il me dit, voilà, tel, il est journaliste, un tel, il est écrivain, un tel est peintre, etc. C'était tout son groupe d'amis qui s'était réuni. Et je m'attendais à monts et merveilles de ce repas. Ils ont parlé que de vinaigrette pendant tout le repas. On peut faire une vinaigrette comme si, comme ça. Moi, c'était une autre planète pour moi. Tous ces intellectuels qui étaient capables de parler pendant 2 heures des multiples façons de faire une vinaigrette adaptée à telle sorte de salade, adaptée à telle autre sorte de salade. Je me dis, je suis chez les fous.
Oui. Non, mais parlez-nous de Robert Mélenchon. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit chez lui, par exemple?
Moi, ce qui m'a beaucoup séduit de quand je l'ai connu, il avait fait un film documentaire en Chine pendant l'époque des Cent Fleurs, avec Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir qui faisaient les textes. Mmh. Et il est resté un an en Chine. Et en rentrant, il a démissionné du Parti communiste. Parce que malgré l'époque des Cent Fleurs, il y avait déjà une grande partie qui était partie à l'époque du complot des blouses blanches, la folie de Staline, que ses médecins voulaient l'assassiner, où il a fait une grande fournée d'assassinat et le goulag, si vous voulez.
Les médecins juifs, c'est ça. Accusés
d'avoir attenté à sa vie, etc. Oui. Et donc, il a plus, après avoir vu de près pendant un an la Chine, à sa plus belle époque, c'est-à-dire l'ouverture de la Chine pour les premiers étrangers, il n'en pouvait plus. Donc, je me rappelle qu'il devait aller au siège du Parti communiste écrire sa bio, il lui faisait réécrire sa bio. Et puis après, on a fait des documentaires plus tranquilles, si j'ose dire. On avait un long documentaire qui était nommé aux Oscars, qui était sur le thème « Il n'y a pas de famine dans le monde, il n'y a que du sous-développement, parce que c'est le sous-développement qui génère la famine, elle tombe pas du ciel comme ça. » Donc ça, c'était là, on était dans le nord-est du Brésil, dans le sertão, et on racontait un groupe de paysans, c'était la région la plus pauvre. On n'arrivait pas à trouver des cartes. On devait tourner donc dans le sertão, à une petite ville qui s'appelle Petrolina, qui est sur un immense fleuve qui s'appelle San Francisco. Et on n'avait pas, on savait pas trop où c'était. C'était dans le nord-est justement. Et c'est seulement à l'ambassade américaine qu'on a trouvé des cartes suffisamment détaillées pour aller de Rio dans le sertão, de chercher la petite ville qui nous convenait. Et on est resté là quand même pendant 3 mois. En 15 jours, on avait mangé tout ce qui était mangeable. Enfin, notre équipe et nous, on avait mangé tout ce qui était mangeable dans l'épicerie. de la petite ville. On a nettoyé toutes les conserves de sardines, toutes les conserves de corned beef et tout ce qu'il pouvait avoir. Et donc, il fallait aller faire les courses à Bahia, oui, qui était sur la côte, mais comme c'était un long voyage, il y avait un grand bâtiment à Recife, la ville par laquelle on arrive dans le nord du Brésil. Oui. C'était la FAO. Donc, c'est là qu'on travaillait pour eux. Et de là, il y avait une petite ligne d'aviation qui allait dans le nord-est et avec laquelle on pouvait revenir. Et j'ai dû prendre plusieurs fois cet argent parce que, en fait, cette industrie pharmaceutique, et c'était la BASF qui nous avait donné le thème. Il n'y a pas de sous-développement. Il n'y a pas de famine dans le monde, il n'y a que du sous-développement, il faut lutter contre le sous-développement. Il y a leur filiale à Recife qui me remettait de l'argent pour le tournage en billets des 1000 marques. Alors, va donc changer des billets des 1000 marques à Recife. Donc, c'était impossible. Et finalement, j'ai trouvé à l'évêché, qui était ravi, qui m'a pris 10 000 marques et qui m'a donné des cruzeros à la place.
Ils y ont gagné, bien sûr.
Sûrement.
J'ai lu que Robert Mengos était proche de Joris Ivens, par exemple.
Oui, bien sûr. Il est allé en Chine avec lui. Ouais. Quand il est retourné tout seul dans un village, on lui avait offert un petit ours et qui l'amusait beaucoup, qui était mignon comme tout. Mais quand il est revenu à Pékin, il a quand même vu un vétérinaire pour qu'il lui dise qu'est-ce que c'est. Et c'était le Giganteus tiberius, je sais pas quoi, enfin, un très gros ours dont il a fait cadeau avant de partir au zoo de Pékin et qu'il a appelé l'ours Joris Ivens. Ah, oui. Et quand moi je suis allée en Chine avec Unifrance, j'ai été au zoo de Pékin et j'ai retrouvé la plaque ours nommé Joris Ivens, il était mort l'ours évidemment, don de Robert Menegos, mais ils avaient laissé une vieille plaque sur la cage de cet ours. Donc il aimait beaucoup beaucoup travailler avec Joris Ivens. Il respectait un peu, il avait un peu plus de problèmes avec Marceline
Loridan, oui.
Loridan, parce qu'elle n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde.
En termes politiques ou idéologiques, c'est ça?
Politique,
oui.
Parce que ça discutait quand même sans arrêt politique. Même quand il avait quitté le parti, après, c'était toujours... Il y avait une association qui était fondée, qui était tous les gens qui avaient quitté le parti communiste.
Ah oui, ça fait du monde.
mais qui ne pouvaient pas vivre sans une association. Ils étaient tellement habitués de se réunir et de discuter de tout qu'ils ont fait une association. Enfin, tout ça était très étranger, évidemment, pour moi. Mais j'ai toujours trouvé que c'était pas juste de juger les communistes français 30 ans après.
Oui.
Qu'à l'époque, c'était une autre histoire. C'était quand même les premiers qui s'étaient lancés dans la résistance contre les Allemands avant les gaullistes et qui se sont battus sérieusement et qu'on avait un autre point de vue à l'époque. L'Allemagne était l'ennemi, certes, mais l'ennemi numéro un, c'était le nazisme.
Bien sûr.
Et on a beaucoup discuté à l'époque, on s'est dit comment un des pays les plus cultivés du monde, l'Allemagne, tous les écrivains, tous les grands musiciens, c'était quand même un pays spirituellement extraordinaire, comment ils ont pu basculer dans le nazisme aussi nombreux, aussi rapidement, et croire ce petit peintre de Bavière, monsieur Hitler, qui était quand même un charlot, quoi.
Oui.
Donc,
Votre histoire personnelle, il reste des images fortes dans votre tête? L'Allemagne détruite, le fait de quitter l'exil, enfin pas l'exil, mais le fait de avec votre famille de bouger.
Quitter la Hongrie, on ne savait pas qu'il y aurait la guerre froide à l'époque.
Bien sûr.
Mes parents partaient, ils pensaient revenir en Hongrie dans 3 mois. C'était, on savait que la guerre était finie, c'était imprévisible que les deux plus fortes alliées dans la bataille contre les nazis devaient se faire la guerre froide, c'était inimaginable. Donc, comme en Hongrie, ma grand-mère n'avait plus d'hommes, parce qu'ils étaient morts, et elle avait épousé le père de mon père. Et avant, elle avait un mari qui était le père de ma mère. Et ils avaient décidé de marier les deux jeunes gens, parce que c'était pratique. Et quand même, elle mangeait assis, et mes parents debout, et les autres enfants debout autour d'elle. Personne s'asseyait quand ma grand-mère était assise. Donc ils voyaient ça comme une échappée dans la liberté. Avec leur famille, d'être chez eux vraiment, sans grand-mère. Et on a compris petit à petit que le rideau de fer est tombé et qu'il n'y avait pas de possibilité ni pour eux de venir, ni pour nous d'y aller. Mais quand même, quelques années après, il y a un oncle hongrois qui était chef d'orchestre, mais qui jouait dans un hôtel et dans les restaurants à Budapest, qui a voulu venir travailler avec mon père, gagner de l'argent pour pouvoir retourner avec une voiture, acheter une Volkswagen, une coccinelle, et retourner avec la voiture à Budapest. Et donc lui, il est rentré. À l'époque, il fallait attendre plusieurs mois pour avoir une coccinelle. C'était très très long. Et donc on est allé la convoyer avec mes parents. Mon oncle devait venir à la frontière hongroise. Et nous, on était à la frontière autrichienne. Nous, on ne pouvait pas passer. Lui, il ne pouvait pas passer. Donc, énorme palabre, ça a duré une journée entière pour savoir comment on fait. Alors, finalement, on a pu convaincre les Autrichiens d'amener la voiture au-delà du poste frontière jusqu'à la limite réelle de la frontière hongroise, donc à mi-chemin entre les deux postes frontières, et les Hongrois sont venus la chercher. Mais c'est même pour eux impossible de franchir parce que rideau de fer. Et puis après, on est allé au Neuwiedlersee, c'est un lac qui est entre la Hongrie et l'Autriche, un lac très très plat, et le rideau de fer passait au milieu, mais on pouvait voir la Hongrie. Et donc on est resté la journée là à regarder de l'autre côté de la frontière.
Qu'est-ce qui vous guide, vous, dans votre jeunesse? C'est la curiosité, le courage, le goût de la liberté?
Ah, la liberté.
La liberté.
L'indépendance, la liberté, et faire quelque chose de mes mains, quoi. Pas obéir à l'école, pas faire des études, enfin, tout ça, c'était pas du tout pour moi.
Merci, Margaret.
Voilà.
On se donne rendez-vous demain.
D'accord.
Demain soir à 20h.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Serge Toubiana avec Margaret Mengoz. À voix nue, réalisation Thomas Duterre, prise de son Laurent César, coordination Daphné Abgral. À voix nue se réécoute et se podcast sur franceculture.fr.